Libre à vous.
L'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Œuvre libre et libérée. Un échange avec une autrice et un gérant de maison d'édition publiant sous licence libre. Ce sera le sujet principal de l'émission du jour. Également au programme, une nouvelle humeur de G. Ça y est, je suis fracturé du numérique. Et aussi la deuxième partie des lectures buissonnières de Vincent Calame sur Semence, une histoire politique. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission qui vous raconte les libertés informatiques. Proposée par l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Étienne Gonu, chargé de mission affaires publiques pour l'April. Le site web de l'émission est libreavoue.org, vous pouvez y trouver une page consacrée à l'émission du jour avec tous les liens et références utiles, et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire des retours et à nous poser toutes questions. Nous sommes mardi 24 octobre 2023, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. À la réalisation de l'émission, pour sa toute première réalisation en solo, Magali Garnero alias Bouquinette. Salut Bouki.
Salut à tous.
Et nous vous souhaitons une excellente écoute.
Cause commune, la voix des possibles, 93.1 FM et en DAB+, en Ile-de-France. Partout dans le monde, sur causecommune.fm et sur l'appli Cause commune. Pour participer à notre conversation, 09 72 51 55 46 et aussi sur causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous.
Guy, auteur du blog BD Grisbouille, nous expose son humeur du jour. Des frasques des GAFAM au mode numérique, en passant par les dernières lubies anti-internet de notre classe politique. Il partage ce qui l'énerve, l'interroge, le surprend ou l'enthousiasme, toujours avec humour. L'occasion peut-être, derrière les boutades, de faire un peu d'éducation populaire au numérique. Alors, il y a presque un an, Guy nous proposait une chronique sur les fracturés du numérique. Serait-il lui aussi tombé dans les affres de la fracture numérique ?
Alors, salut Étienne, est-ce que tu m'entends ?
Je t'entends, bah oui, parce que tu es d'habitude avec nous en studio et c'est vrai qu'aujourd'hui, exceptionnellement, tu participes à distance. Et je vais en profiter pour faire un petit échange avec la régie. Bouki, tu peux éteindre ton propre micro. Super. Et bah, dis, on t'écoute.
Alors, salut à toi, public de Libre à vous. Alors, effectivement, comme Étienne le disait, il y a un an, c'est presque jour pour jour, hein, notamment si j'avais fait ma chronique la semaine dernière comme c'était prévu, malgré le Covid, du coup. Et ben. C'était le 15 novembre 2022, je donnais sur ce plateau du coup ma troisième chronique de l'émission qui s'appelait « Les fracturés du numérique ». Bon, je vais pas vous la refaire, hein, mais si je résume, je commençais par une petite anecdote sur la déclaration URSSAF que je venais de remplir en ligne, en expliquant que je trouvais ça génial de pouvoir faire ses démarches par internet, tranquillement installé chez soi. Ensuite, je relativisais en disant que c'était par contre une très mauvaise idée de rendre le numérique obligatoire et d'en profiter pour supprimer toutes les alternatives, courrier papier, téléphone ou guichet physique. Je vous parlais notamment de la fameuse fracture numérique, en rappelant quelques chiffres de 2018 assez parlants. 23% de la population française déclarait ne pas être à l'aise avec le numérique, 36% déclarait être inquiet à l'idée d'accomplir des démarches administratives en ligne, 19% déclarait avoir déjà renoncé à une démarche parce qu'elle impliquait l'utilisation d'Internet. Alors évidemment, je me plaçais dans la position du geek, très à l'aise avec le numérique, pour qui la numérisation des services était fort pratique, mais qui avait bien conscience que l'intégralité de la population française ne se compose pas uniquement de geeks très à l'aise avec le numérique. Bref, j'étais dans la position d'un mec privilégié qui offre sa compassion à ses camarades fracturés du numérique en expliquant l'importance fondamentale d'alternatives non numériques. Eh bien, un an après, ça y est, je vous l'annonce, moi aussi, je suis désormais un fracturé du numérique. Wouhou ! Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que je refuse d'associer mon petit ordiphone à un compte Google. Ah, ça a l'air tout con, hein ? Et pourtant, être dégooglisé vous rend la vie de plus en plus difficile de nos jours. Allez, je vous explique. Le hasard fait que ça concerne encore une fois l'URSSAF. Il se trouve qu'ayant récemment déménagé de mon ancien logement à Nice pour rejoindre l'Île-de-France, j'ai évidemment cherché comment changer la domiciliation de ma micro-entreprise, celle avec laquelle je déclare mes activités de blogueur, de vendeur de livres et de jeux vidéo. Je regarde donc sur internet comment changer d'adresse, et l'URSSAF me renvoie vers l'INPI, Institut National de la Propriété Industrielle, qui présente fièrement son tout nouveau guichet unique. Je remplis donc mon petit formulaire de changement d'adresse. Petit formulaire de 7 pages, mais ok, non, mais c'est un peu long, hein, mais moi on me dit de remplir, je remplis, hein, je suis plutôt arrangeant. Et puis ensuite, bah, on me demande de le signer électroniquement. Comment ? Eh bien en passant par France Connect Plus. Et j'insiste sur le plus. Si vous avez déjà utilisé France Connect tout court, sachez que ça n'est pas du tout la même chose. France Connect, c'est sympa, hein, moi je m'en suis déjà servi sans problème. Non, France Connect Plus, c'est différent. C'est un système qui permet donc une signature électronique avancée reposant sur un certificat qualifié. Et France Connect Plus vous demande deux choses. 1. Être majeur, bon ça ok. 2. Disposer d'un smartphone Android ou iPhone. Ah, alors déjà là, pardon, moi je tique. Parce que dans les chiffres que j'ai cités sur la fracture du numérique, j'en ai oublié un. 13% de la population française ne dispose pas d'un tel smartphone. Ce qui fait quand même 8 millions de personnes. Hein. Bon ok, tu peux retirer les mineurs hein, qui ne sont pas concernés, mais le taux sera alors probablement pire vu que les personnes âgées sont statistiquement moins équipées que les jeunes. Voilà, là je commence à être un peu agacé, pour ne rien te cacher, parce que c'est typiquement le genre de choses que je dénonçais dans ma fameuse chronique de l'année dernière. Des démarches censées devenir simplifiées, là on nous parle de guichet unique, on sent bien le côté c'est plus simple, mais qui en fait compliquent énormément la vie à tout un tas de gens. Bon, tout un tas de gens, mais pas moi, évidemment, hein, moi le numérique, encore une fois, ça va, hein. Et d'ailleurs un smartphone Android, j'en ai un. Donc je me dis que c'est bon, je vais télécharger leur appli, là, l'identité numérique La Poste. Oui, je sais pas pourquoi c'est La Poste qui gère ça, les desseins de l'administration française sont impénétrables. Évidemment, étant moi-même dégooglisé, mon téléphone ne possède pas les fameuses applications Google, et notamment le Play Store, le magasin d'applications. Mais j'utilise Aurora, un logiciel libre qui permet de télécharger les applications du Play Store sans passer par Google Play, et en général ça marche plutôt bien. Et bah surprise, pas là. Une fois l'application installée, je la lance, et je tombe sur ce petit message. Erreur, vous devez installer l'application depuis Google Play. Je ne vous mens pas, à ce moment-là, j'étais à deux doigts de balancer mon téléphone par la fenêtre. Parce que obliger les gens à passer par Internet pour faire leur démarche, c'est une chose. Les obliger à avoir un smartphone, c'est encore autre chose. Les obliger à installer leurs applis depuis Google Play, ça veut dire les obliger à posséder un compte Google associé à leur téléphone, et ça, c'est vraiment autre chose. Quand je mets bout à bout cette expérience, le résumé tient en une phrase. Pour changer l'adresse d'une micro-entreprise en France, il est obligatoire d'avoir un compte Google. Je vais la répéter parce que j'hallucine que cette phrase soit vraie en 2023, 10 ans après les révélations d'Edward Snowden sur le système de surveillance mondiale des États-Unis, système de surveillance qui repose largement sur la collaboration des GAFAM. Pour changer l'adresse d'une micro-entreprise en France, il est obligatoire d'avoir un compte Google. Mais on est où là, sans déconner ? Non, sérieusement, il y a des trucs qui me mettent en colère, mais ce truc-là, ça me fait enrager. Ça me rend dingue, ce truc. J'en ai même fait une BD qui a pas mal tourné, et puis maintenant, bah, cette chronique. Alors, j'évacue tout de suite les remarques techniques. Oui, mais c'est le safety net de Google, c'est le seul moyen de certifier que c'est l'utilisateur qui blablabla. Je m'en tape, en fait. C'est pas une question technique, c'est une question politique. Si vous n'êtes pas capable de mettre en place des démarches sécurisées en ligne sans reposer entièrement sur une entreprise d'un pays qui se torche avec la vie privée de tout le monde à grands coups de Patriot Act, eh bien, le faites pas. Et puis au moins, rendez pas ça obligatoire. Oui, parce que dans ma BD, je vous disais que j'avais trouvé une alternative en envoyant un bon vieux formulaire CERFA, papier, hein, à mon URSSAF. Bah pas du tout en fait. Hein. Mon CERFA, il est parti à la corbeille directe, et j'ai reçu une réponse automatique de l'URSSAF qui me répète de passer par le guichet unique de l'INPI. Bon bah moi du coup j'ai envoyé un mail à l'INPI pour leur demander s'ils avaient une solution pour signer mes documents sans passer par France Connect Plus, enfin Google Connect Plus. Hein. Au moment où j'écris cette chronique, j'attends toujours la réponse. Comme ça fait déjà 2 semaines, j'imagine que la réponse tient en 5 lettres, hein, M-E-R-D-E. Et donc, je fais quoi ? Ah, ça pique hein, de se retrouver du côté des fracturés du numérique, des pestiférés qui ne sont pas suffisamment connectés pour faire leur démarche administrative. Évidemment, en bon gros geek, je suis assez tenté d'essayer des petites techniques alternatives, comme installer l'appli dans un émulateur Android sur mon PC avec un compte Google dédié qui ne servira qu'à ça, ou bien passer par des utilitaires qui cachent le fait que l'appli n'a pas été installée par Google Play en routant le téléphone au préalable, mais je devrais pas avoir à me lancer dans ce genre de truc. Moi, vous savez, ça me donne limite envie de faire le contraire, de balancer mon smartphone, prendre un bon vieux dumbphone, un Nokia qui fait SMS, coup de fil et basta, et comme ça, au moins, j'arrêterai de me poser des questions et je passerai directement à l'étape « J'ai pas de smartphone, il me faut une autre solution, démerdez-vous ». Je suis désolé si la chronique est un peu vénère et un peu vulgaire, mais faut que ça sorte. Parce que je me dis que peut-être que si on est suffisamment à les enquiquiner et à résister à ce genre de pratiques, on finira par avoir de nouveau des solutions qui ne dépendent pas des GAFAM, voire même des solutions non numériques, rêvons un peu. En attendant, ma micro-entreprise reste domiciliée à Nice. Jusque quand ? Bah j'en sais rien, jusqu'à ce qu'on me trouve une solution sans Google. Bon, j'ai fait une redirection de courrier, alors disons que ça va. D'ailleurs, pour la redirection de courrier, la Poste ne demande pas encore d'avoir un compte Google. Tu me diras, c'est déjà ça. Mais au train où vont les choses, je me demande si ça va durer. Allez, salut.
Merci, Di. Voilà, je pense qu'on est nombreux et nombreuses à partager ton énervement. Et merci de défricher ce chemin et de nous partager ça. Et comme tu le dis, hein, si on est suffisamment nombreux et nombreuses aussi à râler et à s'organiser, c'est peut-être comme ça aussi qu'on pourra renverser ces rapports de force. J'en profite pour rappeler que ton blog BD est effectivement Grisbouille, hein, qu'on peut retrouver. On pourra lire, rire et râler avec le biais que tu as mentionné, hein, qui aura donc inspiré cette chronique. Je vais aussi en profiter pour rappeler que tu es un auteur qui a fait le choix de publier son travail sous licence libre, à l'unique exception, on peut le dire, de ton jeu vidéo superflu Returns, qui n'en reste pas moins un excellent jeu vidéo qu'on vous invite à découvrir.
Merci.
Et tes œuvres sont donc quasi intégralement gratuites, ou plutôt à prix libre. Et on peut donc soutenir ton travail et y contribuer financièrement par des dons ponctuels ou récurrents. Et donc j'invite les personnes qui souhaitent le faire à retrouver les informations sur ta page ptilouk.net, ptilouk.net.
Merci. Et du coup, sachez que les dons en question seront déclarés à Nice, mais même si j'habite en Ile-de-France. Donc voilà.
Alors, ça peut poser des problèmes pour d'autres raisons, mais on va pas rentrer dans ce sujet. Enfin, écoute, merci encore, Di. Ben,
merci à vous. Bah, ouais.
Alors, au mois prochain pour une nouvelle chronique. Et ouais, à la semaine prochaine pour ta participation, décidément, à un sujet long consacré à l'actualité du libre. Et j'en dirai plus en fin d'émission.
Ouais, super.
Salut, je te souhaite une bonne fin de journée. Et on va passer à la pause musicale. Alors, après notre pause musicale, on parlait de publication sous licence libre. Eh bien, nous aurons le plaisir d'entendre une autrice et le responsable d'une maison d'édition qui font le choix de publier sous licence libre. Et nous allons écouter Cold Burn par Lemon Knife. C'est pas grave, Vuki, tout va bien, on va écouter de la musique pour se détendre justement. Nous allons donc écouter Cold Burn par Lemon Knife et on se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune. To run, is this conquest or a defeat? No pyromancer, no phonomancer could melt the ice inside my soul. Don't say I'm broken, don't say I'm joking. I love you, but I'm here out in the cold. A fleeting secret glance, a slightly too close dance, a language that I never learned. They say some like it hot, they say it rules your thoughts, but I was born with a cold burn. No pyromancer, no phonomancer could melt the ice inside my soul. Don't say I'm broken, don't say I'm joking. I love you, but I'm here out in the cold. We'll be right back.
Nous venons d'écouter Cold Burn par Lemon Knife, disponible sous licence libre Creative Commons Attribution CC BY.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavoue.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
Passons maintenant à notre sujet suivant. Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui porte sur les œuvres libres et libérées. Pour ce sujet, je vais laisser la parole à Laurent Costi, vice-président de l'April et contributeur régulier de l'émission qui va animer cette discussion. Et n'hésitez pas à participer à la conversation au 09 72 51 55 46 ou sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm, bouton chat. Laurent, je te passe la parole et le micro.
Merci pour le micro qui se balade. Effectivement, on est quatre en studio aujourd'hui, ce qui est plutôt rare. Nous allons effectivement aujourd'hui aborder un sujet autour de la culture libre. On va aller au-delà du logiciel libre et évoquer globalement la culture libre. Donc, et plus précisément, nous allons échanger avec nos deux invités, Aquilegia Knox et Olivier Janera, respectivement autrice et éditeur.
Lionel Janera.
Lionel. Oui, j'ai pas mis de prénom dans mon pad, donc ça commence bien. Donc nos invités expliqueront d'abord leur prénom et surtout pourquoi et comment ils se sont engagés dans une démarche d'écriture et d'édition sous licence libre, à contre-courant quand même des modèles standards. Nous leur poserons quelques questions autour de leur cheminement pour en arriver là et puis voir un peu les écueils qu'ils ont pu traverser. Et puis surtout les perspectives qui s'ouvrent à eux dans ces démarches-là. Voilà, je vais vous laisser vous présenter tous les deux. Donc, je ne sais pas qui veut commencer, Aquilegia.
D'accord, merci, bonjour.
Bonjour.
Eh bien, moi, en fait, je suis entrée dans le monde du libre par l'informatique, c'est-à-dire que je connaissais le principe des licences libres parce que j'ai connu le principe des logiciels libres. Et puis, quand j'ai commencé à vouloir publier mes premières nouvelles, à les partager sur Internet, je suis allée sur un site dont certains se souviennent peut-être, qui s'appelait à l'époque In Libro Veritas. Et c'est là que j'ai déposé mes premières nouvelles, ravie de pouvoir choisir de les diffuser sous licence libre ou sous licence ouverte. Donc j'ai fait mes petites expérimentations, c'était un milieu en pleine effervescence, il y avait beaucoup de gens avec qui partager, des gens très motivés par le libre aussi. Et puis, comme ça, j'ai pu me lancer aussi dans mon premier roman en auto-édition, coécrit avec mon compagnon Léo Sigrane. Et puis on avait choisi donc une licence, si mes souvenirs sont bons, c'était juste une CC BY NCND, il me semble. Mais j'avais des nouvelles sous diverses licences, aussi bien art libre que d'autres, parce que j'avais envie d'essayer.
Est-ce qu'on peut réexpliquer chaque terme de la licence pour les gens qui ne connaissent pas?
Oui,
s'il te plaît.
Bien sûr.
Merci.
Donc licence Creative Commons. Donc BY, ça veut dire que il faut toujours citer l'auteur original ainsi que tous les auteurs éventuels qui ont pu contribuer. NC, pas de d'usage non commercial. Autorisé sans accord des auteurs, et puis ND, pas d'utilisation dérivée, donc non plus sans l'accord des auteurs. Donc si on veut faire une traduction, par exemple, il faut d'abord demander l'accord des auteurs.
Merci, c'est important, je pense, de le préciser. Merci.
Voilà, donc j'ai pu comme ça essayer avec des nouvelles sous diverses licences, c'était très chouette.
Voilà. Oui, voilà. Et moi, je suis Lionel Janera. Je suis gérant de la maison d'édition PVH Édition. On est basé en Suisse. Mon parcours, c'est que je suis libriste, c'est-à-dire que moi-même, j'essaye dans la mesure du possible, à titre privé, d'utiliser des logiciels libres. Et puis, il y a 9 ans, quand j'ai lancé la maison d'édition, c'était avant tout j'avais vraiment envie de créer une maison d'édition, mais je n'avais pas du tout là encore véritablement. Enfin, c'est compliqué de monter une maison d'édition. Il y a des questions de contrat, il y a des questions de plein de choses. Et pour me simplifier la vie, j'avais pas imaginé réinventer la manière d'éditer, parce qu'il y avait des outils, des contrats, modèles, etc. Et puis, petit à petit, notamment l'année dernière, ma réflexion est venue sur le fait que pourquoi alors que je défends le logiciel libre et la culture libre, c'est quelque chose qui m'intéressait. Pourquoi ma maison d'édition ne ferait pas elle-même le pas? Mais je ne voulais pas le faire, disons, dans le vide. Donc, j'ai pris le temps de la réflexion et puis de réfléchir, en fait, qu'est-ce que signifiait, enfin, si je libérais les œuvres de la collection, qu'est-ce que ça aurait comme impact sur mon activité d'éditeur. Et puis là, en fait, comme j'étais déjà proche du libre, j'avais une partie de mes auteurs qui étaient des gens déjà convaincus, comme Akilegia, mais aussi Plume, Lionel Dricot, ou Thierry Crouzet, qui avait aussi pas mal expérimenté dans ce domaine-là. Et eux, je leur ai parlé, il n'y a pas eu beaucoup à discuter, mais il fallait aussi avoir l'autorisation des auteurs, parce qu'on libère pas une... Même si théoriquement j'en avais le droit, c'est pas ma manière de fonctionner. Donc je voulais avoir l'accord des auteurs, il a fallu leur expliquer tout ça. Donc ça a pris un peu de temps, et en janvier dernier, on a libéré toute la collection principale de la maison d'édition, qui est la collection Ludomir, spécialisée dans la science-fiction, la fantasy et le fantastique. Voilà.
Merci beaucoup. Alors c'est vrai que je précise, mais enfin tu l'as un peu dit, mais c'est vrai que vous êtes venu de Suisse pour l'émission. Je tenais à le souligner parce que c'est quand même un long trajet et nous sommes honorés de vous recevoir aujourd'hui. Je fais une toute petite précision. Étienne me faisait remarquer qu'effectivement on a parlé des licences Creative Commons avec la clause NDNC. Alors elles ne sont pas considérées comme libres, mais ça peut être finalement à un moment donné des transitions pour aller plus vers des licences libres. Ça permet de passer des étapes, de convaincre les gens et puis d'aller après plus vers des licences libres. Vous avez, je crois, tous les deux un passé dans le jeu de rôle. Finalement, c'est quand même un dénominateur commun. Et c'est finalement, est-ce que ça, comment dirais-je, orienté un peu vos logiques d'écriture, vos logiques par rapport au libre, que ce soit en éditeur ou en autrice.
Comme je laisserai la parole ensuite. Alors, on s'est connus grâce au jeu de rôle, d'une part. Au niveau de ma manière de voir le droit d'auteur, en fait, le jeu de rôle est un média très collaboratif, et avant d'être éditeur, j'ai été aussi auteur, et pour moi, en fait, cette conception même de s'attribuer une création de manière absolue, ça m'a toujours semblé un peu bizarre, parce que on réalise à quel point on prend des influences. Le jeu de rôle est un média qui pioche ses influences dans les œuvres, dans de toutes parts, et en réalité, je pense que cet ADN là, c'est aussi ce qui m'a nourri et qui m'a fait pas sauter le pas.
Alors moi c'est marrant, j'avais pas fait le lien, mais en y réfléchissant, c'est vrai que le jeu de rôle c'est collaboratif, et beaucoup de choses que j'ai écrites, je les ai écrites autour du jeu de rôle. Que ce soit le roman qui est publié maintenant chez PVH Éditions, ou même plein de nouvelles et de petits textes qui sont maintenant plus chez ILV mais chez Atramanta, toujours en lecture libre. Ça, c'est beaucoup de textes qui ont été en fait conceptualisés à plusieurs, puisqu'ils sont souvent dérivés de parties de jeux de rôle. Ouais. Donc c'est toujours de la collaboration. Donc c'était naturel de les mettre sous licence au moins ouverte, mais il y en a pas mal qui sont sous licence libre, et puis comme ça, si d'autres collaborations pouvaient avoir le jour, ça pourrait être...
Dans l'échange qu'on a eu avant l'émission, tu m'as dit les communs de l'imagination font avancer l'histoire. Moi, j'ai trouvé ça très 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 beau, quoi. Enfin voilà, je l'ai relevé quand on a échangé, mais je trouvais que ça illustrait bien finalement un peu la démarche, la logique, et voilà, ça explique bien la logique. Et puis finalement, alors que la licence permettrait finalement, une licence libre permettrait d'éditer l'histoire, tu dis bien que finalement le premier réflexe c'est d'aller vers les gens finalement. Donc la licence libre, elle a tendance à faire du lien. On se sent l'envie d'aller finalement vers les gens qui ont écrit ça pour...
Alors, je ne les vois pas tant comme ça, c'est-à-dire que ce qu'elle permet, donc juste pour parler de deux secondes de la licence qu'on a choisie, donc on a créé notre propre licence, donc qui s'appelle Œuvre libérée, mais en réalité, c'est un copier-coller de la Creative Commons by SA, donc by c'est le fait d'être obligé de citer l'auteur et l'éditeur aussi qui a travaillé dessus, l'illustrateur également. Et puis ça, c'est le copyleft, c'est l'obligation en fait quand on reprend une œuvre de la repartager dans les mêmes conditions. Et puis pourquoi et c'est compatible aussi avec la licence art libre. On avait vraiment envie de montrer cette diversité qui existe dans, en tout cas dans le copyleft. J'aimerais quand même dire, parce que moi je suis un grand fan du copyleft, je pense que je n'aurais jamais... donc le copyleft, on est obligé de reprendre la même licence lorsqu'on la partage. Parce qu'en fait, elle permet... C'est-à-dire que j'aurais pas édité sous une licence qui ne serait pas copyleft. Parce que le rôle aussi de l'éditeur, en fait, le copyleft permet de protéger aussi l'œuvre de manière à ce que, au niveau commercial, c'est que quelqu'un qui le reprend retravaille le texte ou l'adapte en livre audio ou j'en sais rien. Il y a plein de formats ou en bande dessinée ou autre. Ben, en fait, les gens ils sont totalement libres de le faire. Ils n'ont pas besoin de signer un contrat avec nous. En fait, ça permet d'éviter de la paperasse. Et puis la personne, elle est garantie que si elle a fait du travail, elle peut partager son travail. Mais en réalité, ça permet une collaboration, parce qu'en fait, il a tout intérêt à venir me voir et puis dire, en fait, j'ai fait un beau travail, qu'est-ce que vous en pensez ? Et en réalité, on peut, si on veut faire une collaboration, signer un contrat, trouver les manières que nous, on a peut-être pour promouvoir son travail... etc. Donc en fait, la licence libre, elle permet en fait une collaboration frictionless, c'est-à-dire sans friction. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas besoin d'aller sonner chez Disney pour prendre ceux qui défendent très fort leur copyright pour avoir le droit de se l'approprier et de le partager. Donc moi, j'invite et en fait, c'est une des raisons de cette expérimentation, c'est de rendre possible une collaboration sans friction.
Oui, on sait que quand on va chercher quelqu'un qui a publié avec une licence libre, finalement, on va être dans le même état d'esprit et que ça va couler de source, quoi. En fait, on va avoir envie de collaborer, ça va être beaucoup plus fluide.
Mais pas forcément, parce qu'en fait, la réalité dans le monde, c'est que des fanfictions de Harry Potter ou de Twilight, les gens, la réalité, c'est que beaucoup, en fait, aussi, là, on se rend compte que les gens, quand ils prennent un livre et ils l'apprécient, c'est pas la licence qui va les faire apprécier ou pas. Mais il se trouve que, en fait, s'ils ont envie de se l'approprier, ils le feront, en fait. Les barrières mentales qu'on fait sur le copyright, en fait, c'est des barrières surtout qui sont légales. Et le truc, c'est que nous, en fait, les gens qui se le réapproprient, ils ont pas honte de l'avoir fait. Et donc, ils peuvent venir vers nous en disant, je l'ai fait. Et en fait, c'est ce que j'espère, c'est l'ouverture de cette collection a vraiment pour but de, et pour le moment, je l'expérimente déjà à petite échelle, on verra, en fait, il est encore un peu tôt pour faire un bilan, mais...
Vous reviendrez dans un an, quoi.
Ou dans deux ans.
Ou dans deux ans.
Ouais, parce que quand on aura adapté un film...
Oui, c'est ça. Dans cinq ans, alors. Bon. Je voulais peut-être une dernière question sur le jeu de rôle. Je crois qu'on avait évoqué aussi une expérience malheureuse de volonté d'édition d'une histoire de jeu de rôle avec un éditeur qui, finalement, avait mis la clé sous la porte. Est-ce que vous pouvez raconter peut-être ce passage-là, si c'est pertinent, ça.
En fait, dans mon histoire, quand j'ai commencé à écrire et à travailler aussi un peu dans quelque chose qui est touché un peu à de l'édition, si on veut, de la relecture, des choses comme ça, c'était pour le jeu Agon. Et puis, c'était édité par une maison d'édition qui s'appelait Multisim, qui avait mis la clé sous la porte et puis toute la communauté autour de ce jeu s'est retrouvée à ne pas plus pouvoir avoir des nouveaux livres parce qu'en fait les ayants droit ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord. Donc on continuait à écrire mais c'était au bord de la légalité.
Oui, ça rejoint finalement ce qu'on défend quand on dit le logiciel libre a quelque chose de pérenne. C'est quand l'éditeur finalement qui a développé le logiciel, justement met la clé sous la porte, le code étant ouvert, un autre éditeur peut prendre à bras le corps la suite du logiciel et on se retrouve finalement dans exactement la même situation. C'est assez similaire. Finalement.
Moi, je pense aussi qu'Akil Yagia, elle a une expérience aussi avec un autre éditeur. Je pense que je te laisse la parole.
Oui, tout à fait. Parce qu'en fait, mon roman Ajaï aux mille visages, qui est une série, donc le premier tome, Ceux qui changent, a commencé par être publié en ligne sur atramanta.net. Et ensuite, j'ai fait la démarche d'essayer de trouver un éditeur. Dans mon esprit, j'aurais aimé trouver un éditeur qui puisse éditer sous licence libre, en même temps qui édite de la fantaisie. C'était impossible. Déjà, trouver un éditeur en soi, c'était très, très, très compliqué. Donc, j'ai trouvé une maison d'édition qui était une maison d'édition, alors à compte d'éditeur, hein, on m'a rien demandé de débourser, mais qui éditait à la demande et qui ne faisait aucune promotion. Donc, ça, plus d'autres choses qui se sont moyennement bien passées, ont fait que j'ai rompu le contrat au bout des 2 ans qui m'étaient impartis. C'était des contrats renouvelables et je voulais pas m'engager pour une durée supérieure. En fait, j'aurais pu continuer, mais il fallait que je signe un contrat pour la durée maintenant standard, qui est la durée totale de notre vie, plus 70 ans. Et j'avais pas envie de faire ça avec eux. Donc, je me suis mise à la recherche d'un nouvel éditeur. Et puis c'est là que, au cours d'un salon, justement d'une convention de jeux de rôle, je rencontre Lionel, je lui raconte mes malheurs, il me dit « mais tu te rappelles que je suis éditeur ?» Et donc il se trouve que j'ai eu la très grande chance que ce livre lui plaise et qu'on puisse le reprendre ensemble, faire un vrai travail éditorial dessus et puis l'éditer. Et je ne savais pas, évidemment, que le projet de libérer pouvait être dans les tuyaux, mais quand ça a été proposé, évidemment, je ne pouvais pas imaginer être mieux tombée.
Très bien, merci pour ce témoignage, je trouve que c'est intéressant. Et puis là aussi, on met le doigt sur le rôle de l'éditeur, on y reviendra tout à l'heure dans la discussion, mais je pense que ce sera intéressant de l'évoquer. Alors, on a évoqué tout à l'heure In Libro Veritas, je veux bien votre point de vue sur finalement l'évolution de l'édition indépendante. Alors moi, c'est vrai que j'avais écrit édition alternative parce que je ne sais pas comment on intègre dans le terme édition indépendante les licences libres ou dans édition alternative, je sais pas comment, enfin voilà, alors, n'hésite pas à éclairer un peu tout ça.
Alors tout cet historique là, je vais plutôt laisser la parole à Kilegia. Je vais plus parler un peu parce que moi en étant en Suisse, le monde de l'édition est quand même un peu différente par rapport à la France. Ce qu'on constate surtout en France, c'est l'hégémonie des gros éditeurs qui sont contrôlés par des milliardaires. Il existe et en fait souvent on fait la différence avec l'édition indépendante qui sont des éditeurs indépendants des gros groupes d'édition française. C'est très dynamique, mais en réalité et en termes de vente, en termes de visibilité aussi, parce qu'en fait ces gros groupes contrôlent aussi une bonne partie de la diffusion, aussi ils possèdent aussi les chaînes de magasins, de libraires, et donc en fait on fait souvent la différence, c'est pas tant sur la licence ou la manière d'éditer, mais c'est sur l'indépendance, notamment économique des éditeurs. Donc, je me considère comme un éditeur indépendant. C'est plutôt la règle en Suisse, mais dans le monde francophone, c'est les gros gros éditeurs.
Oui, mais du coup, en tout cas, ta maison d'édition, elle est indépendante et même alternative, puisque justement, elle explore toute la logique de licence libre. Enfin, je trouve qu'elle a plus encore.
Elle expérimente.
D'accord.
Mais oui, non. Après, je me considère pas. C'est-à-dire que en réalité, quand on me demande, parce que j'essaye déjà de ne pas présenter ma maison d'édition comme une maison d'édition suisse. Parce qu'en fait, j'aimerais me présenter comme un éditeur de SFFFF, donc science-fiction, fantasy, fantastique. Et en réalité, je fais un travail d'éditeur. Alors, j'expérimente, mais j'aimerais convaincre sur la qualité de mes livres et pas forcément que sur les spécialités d'expérimentation.
Oui, qui touche de toute façon un public qui est, c'est comme tu le disais, les gens ils vont pas chercher un livre d'abord pour la licence, on est d'accord.
Voilà. Disons que je suis pas très punk. voilà, non, mais quand on me dit édition alternative, mais le fait est que aussi pour être visible et puis pour être avoir des partenaires, etc., il faut aussi rassurer. C'est-à-dire que je viens avec les spécialités personnalité un petit peu au compte-goutte pour ne pas effrayer ou pour coller une image que je n'aurais pas à voir.
Oui, c'est pas le langage dont, enfin, qu'ils parlent, donc ils vont pas comprendre. En tout cas, en entrée de matière, enfin, pour entrer dans la matière, c'est pas la bonne entrée, ça me semble évident. Tu peux compléter éventuellement par rapport un peu à cette histoire de l'édition indépendante, du coup.
Alors moi, de ce que je connais de l'édition indépendante libriste.
Ouais, plutôt libriste. Du coup, on parlait d'In Libro Veritas.
Voilà.
Moi, c'est vrai que j'avais croisé ça dans mon parcours libriste, mais je l'ai vu disparaître à un moment donné. Enfin, c'est pareil, c'était mes débuts, donc j'appréhendais pas tout ça, mais.
En fait, à un moment, il y a eu une scission au moment de la création de Atramanta. Mais In Libro Veritas avait une spécificité, c'est que c'était aussi une maison d'édition. C'est-à-dire qu'elle ne proposait pas que du compte d'auteur, c'est-à-dire de pouvoir éditer son livre à ses frais et puis de se charger soi-même de la diffusion, etc. Mais proposait vraiment une édition à ce qu'on appelle à compte d'éditeur. C'est-à-dire que c'est l'éditeur qui prend tout en charge et puis se charge aussi de la promotion, de la diffusion. Malheureusement, la diffusion, effectivement, c'était quelque chose qui ne se faisait pas. En fait, on retrouvait pas les livres d'In Libro Veritas Bibliotheca ou de la collection Sciences Libres dans les librairies. Et je pense que c'est quelque chose qui a coûté, en fait, puisque la diffusion se faisait pas facilement. En tout cas, ça a été une époque extrêmement effervescente. Il y avait énormément d'idées, il y avait énormément d'auteurs qui voulaient se lancer. Il y a eu des recueils qui ont été publiés sous licence Art Libre, des choses vraiment très très intéressantes. Mais vraiment, ce côté diffusion, ça
n'avait pas été pensé, elle n'avait pas été expérimentée, parce que finalement, c'est pareil. Toi, Lionel, tu construis ton réseau, ça prend un temps colossal finalement.
En fait, la spécificité, je pense que je suis un des premiers éditeurs francophones de littérature qui en fait est diffusée en France, en Belgique et en Suisse. Et comment en fait on y parvient ? Eh ben, il a fallu construire toute cette collection. Donc là maintenant c'est 20 livres. Au moment où j'avais démarché les diffuseurs, on était peut-être à une dizaine. Et puis il faut montrer que c'est beau, on doit montrer une régularité dans les sorties. En fait, c'est un coût véritablement en travail, mais aussi quand j'étais un tout petit, maintenant en fait il y a plein de gens qui nous proposent leurs manuscrits. Il y en a même certains qui aimeraient spécifiquement être édités par nous à cause de la licence libre. Mais le truc, c'est que pendant longtemps, on n'était pas connus. Donc, on nous proposait pas les manuscrits. Et donc, il a fallu travailler là-dessus. Maintenant, on a cette chance. C'est aussi un moment où tout ce gros travail de pouvoir être dans les librairies, d'être connu aussi, il a été fait. Je me suis dit, maintenant, on va essayer. Enfin, j'ai un peu de temps, j'ai un petit peu de temps de cerveau disponible, et maintenant on va essayer autre chose. Et l'autre chose, c'était de libérer la collection.
Merci pour cet éclairage. Alors, avant la pause musicale, un dernier point peut-être par rapport justement à cette édition indépendante et alternative. Framabook a existé, ils se sont transformés récemment. Est-ce que vous pouvez juste en dire deux mots ? Parce que finalement, c'est une expérience...
Alors, moi j'ai suivi, et surtout que j'ai échangé beaucoup avec maintenant les livres en commun. Donc, Framabook était aussi une maison d'édition qui éditait à compte d'éditeur. Mais tout comme... les autres que Akileji a cité, en réalité, ils n'avaient pas de diffusion. Donc, en fait, ils faisaient un super travail éditorial, c'est-à-dire en fait de relecture, de mise en page et tout ça. Mais finalement, en fait, le travail d'éditeur, souvent, on pense que c'est juste.
On y reviendra après la pause musicale pour le travail d'éditeur, je pense.
Voilà. Mais et ensuite, maintenant, ils ont vu que ils étaient déçus par les ventes. Ils ont vu aussi que ça rapportait pas grand-chose aux auteurs. En fait, les ventes. Il n'y a pas de miracle pour pouvoir rémunérer au mieux les auteurs, il faut vendre. Et puis là, ils ont transformé tout ça en les livres en commun. Et ils ont décidé de subventionner la création de livres sous licence libre.
Ouais, sur la base de projets qui sont soumis.
Voilà, exactement. Donc, ils sont maintenant plus dans le soutien, subvention à la création. Mais voilà. Donc,
le CNC du livre, quoi. En France, pardon.
Du livre libre. Sauf qu'ils n'ont pas les mêmes moyens.
Je pense, ouais. Je vais repasser la parole à Étienne pour la pause musicale.
Merci, Laurent. Alors. Hop, on passe le micro, je me mets bien sur mon séquencier. J'en profitais pour peut-être relayer deux petits propos qui nous viennent sur le web chat, notamment de Bookie qui est en régie et qui, au-delà de ses activités de régisseuse de l'émission Libre à vous, est également libraire. Donc c'est effectivement, je pense, une conversation qu'elle peut suivre avec expérience aussi. Et elle nous dit alors d'une part que c'est compliqué pour les libraires d'avoir des livres qui viennent de In Libro Veritas. Alors le site n'existe plus, mais on vous fera une redirection vers le super boutique et archive. Org qui permet d'explorer d'anciens sites web, donc on vous mettra le lien, comme ça vous pourrez vous faire une idée. Et Bookie nous disait également qu'effectivement c'est important d'être diffusé, mais que ça peut coûter cher. Et je vais partager moi une réflexion que je me suis fait pendant les échanges. Ça m'évoquait une émission que tu avais toi aussi animée sur les BD et la culture libre, et certaines choses que vous avez pu dire m'ont évoqué des propos que tenait David Revoy, qui lui-même publie ses bandes dessinées sous licence libre. Et peut-être que je devance des propos qui seront tenus par la suite, non, me fait Laurent. Entendu. Alors nous allons donc passer à une pause musicale. Nous allons écouter Balkara Big Chicken par Quantum Jazz et on se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune 93.1.
D'écouter Balkara Big Chicken par Quantum Jazz, disponible sous licence libre Creative Commons partage dans les mêmes conditions, CC BY SA.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavoue.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune.
Et nous sommes donc de retour sur la radio Cause Commune. Je suis Étienne Gonu de l'April pour Libre à vous. Je vais rendre la parole à Laurent Costi, Lionel Jeanrat et Akilegia qui échangent sur les œuvres libres et libérées. Et je vous rappelle que vous pouvez participer à notre conversation sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm. Bouton chat et je rends la parole et le micro à Laurent.
Merci Étienne. Alors, donc on va enchaîner un peu sur justement le métier d'éditeur. Alors, faut quand même se rappeler que la communauté libriste, elle s'est quand même cristallisée contre un éditeur de logiciels, Microsoft à l'époque. Il y a peut-être dans l'inconscient collectif toujours une pensée un peu anti-éditeur qui est ancrée. Donc ça, tu vas nous l'expliquer un peu. Et puis, un des rôles de l'éditeur, c'est quand même de stimuler pour générer des suites à l'œuvre, par exemple. Est-ce qu'il n'y a pas un raccourci qui est opéré en pensant que passer par des plateformes d'impression à la demande va libérer les auteurs et les autrices? Est-ce qu'il y a un lien?
Ah ouais. C'est, en fait, c'est super intéressant, cette question-là. Parce que, bon, d'une part, je vais certainement l'apprendre à personne, c'est qu'il y a plus ou moins... Il y a les bons et les mauvais éditeurs. Il y en a certains qui sont plus ou moins honnêtes. Je vais pas donner de nom. Et la réalité, comme je l'ai dit avant aussi, c'est que les gros éditeurs, enfin la masse d'éditions en France, mais aussi dans le monde, c'est des grosses boîtes, peu importe personnel. Et puis souvent, il y a aussi... La réalité, c'est que de plus en plus de gens écrivent et ils aimeraient être édités. Et ils sont prêts à un peu à tout pour pouvoir le faire. Et puis c'est comme ça que Amazon, d'abord Lulu, mais ensuite Amazon se sont engouffrés dans la brèche.
Alors Lulu, c'est un éditeur,
c'est un prestataire en ligne. Voilà. Pour faire de l'impression à la demande, c'est-à-dire que vous mettez votre livre, puis après vous pouvez commander. C'est comme Amazon.
On peut en imprimer demand. 1, 2, 5. Ouais,
exactement.
10, 100,
et ouais. Puis n'importe qui peut en commander, et puis ils sont livrés à la maison. Mais la réalité, c'est qu'en fait, ces gens-là ne font pas tout le travail d'éditeur. C'est en fait les gens, ils se disent, on peut se passer d'éditeur parce que ils se disent, je le mets en ligne, et puis je commande, puis j'ai un livre chez moi, donc je suis édité. Et en fait, le travail d'éditeur, il va bien plus loin que ça. Je vais prendre une expression de Plume qui dit PVH Édition, c'est un peu comme une écurie d'auteur, dans le sens où on prend les œuvres et on accompagne aussi les auteurs. On crée comme une équipe. Et en fait, on va travailler pour que on va mettre en valeur. Il y a le travail de mise en valeur du livre. Donc, par exemple, dans notre cas, on a cette collection Ludomir qui a un parti pris graphique très fort et qui va créer aussi une unité pour tous les livres et au final où ils vont pouvoir être mis en valeur. Et des beaux livres, c'est aussi la seule manière de pouvoir être en librairie, d'avoir une identité forte. On va travailler avec eux aussi pour améliorer les textes, parce que la plupart du temps, par exception, en fait, il y a toujours un regard extérieur est bien, et puis après on va le faire imprimer. Et puis après, on va faire tout le travail de promotion auprès des médias éventuellement, le travail aussi auprès du diffuseur qui lui-même va faire le travail auprès des libraires. Et puis tout ça, c'est pas encore fini. C'est en fait pour vraiment pouvoir faire tourner une maison d'édition, il faut aussi avoir des subventions. Et pour ça, en fait, il faut respecter des règles de contrat, d'auteur, etc. Et après, il y a tout le travail d'accompagnement des œuvres qui, tout d'un coup, je vais à un salon pour présenter les livres pour éventuellement des adaptations cinématographiques ou audio. Et ça, c'est un travail qu'on fait un petit peu et qu'on ne peut pas faire que pour un bouquin et qu'un auteur ne peut pas faire lui-même. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas accès à ce type de salon. Et surtout, en fait, le fait d'avoir été sélectionné et d'être défendu par un éditeur qui a mis aussi son temps, son argent, est un gage de sélection, on va dire. Et donc, tout ça, c'est très important. Et c'est un socle qu'un auteur tout seul... Je dis pas que c'est impossible, mais va difficilement pouvoir mettre en place tout seul.
Moi, je retiens de notre discussion qu'il y a les bons et les mauvais éditeurs. Quoi. C'est peut-être ça la conclusion, mais je pense que non. Mais on avait quand même.
Après, je vais non, aussi défendre Gallimard ou des. Enfin, je voulais pas les nommer, mais ces grosses maisons d'édition, c'est que généralement, quand ils accompagnent des auteurs, ils le font aussi bien. C'est-à-dire qu'en fait, c'est juste que ils le font pas tout à fait de la même manière. C'est des salariés. Ils ont pas les. Ils éditent aussi beaucoup de livres. C'est-à-dire certains éditeurs. Par exemple, je pense que notre maison d'édition, moi, elle se caractérise par la qualité des textes. Mais en fait, c'est pas parce que on est des génies. C'est juste qu'on n'a pas le même modèle d'affaires. Nous, on n'a pas les moyens de sortir 50 bouquins dans l'année dans une collection. Parce qu'en fait, on n'a pas les forces vives, on n'a pas non plus forcément les manuscrits. Et la sélection, c'est nous qui la faisons. Et on a une ligne éditoriale. Alors qu'en fait, d'autres éditeurs qui collectionnent SFFF, y en a, ben en fait, ils vont en sortir plein, et ça va être le public qui va faire la sélection. Pour eux, c'est pas un problème d'avoir un livre qu'ils ont à 50, 100 exemplaires. Ils se disent, ben en fait, on va pas le sortir le suivant. Ça veut dire qu'il n'y a pas de public. Et voilà.
Merci. Mais je pense que c'est important de réexpliquer effectivement quand on n'est pas du métier, quand on ne connaît pas, on se fait une image de l'éditeur qui est une couche qui. On se demande à quoi elle sert. Mais du coup là, je pense que t'as quand même éclairé toutes les.
Après. Après, on pourra mettre peut-être sur le site de l'émission. J'ai fait une explication en quoi en fait le print on demand. En fait, c'est une voie de garage. En fait, c'est ultra cher. Et en fait, c'est Lulu ou Amazon qui prennent toutes les marges. Et puis en fait, ces marges, c'est celles qui permettent aux libraires de vivre. Le diffuseur, l'éditeur et
oui, j'étais tombé sur l'article. J'ai mis le lien. Enfin, je passerai le. Il sera sur le site. Hein, le lien. Voilà. Y a pas de. Je trouve que c'est un éclairage qui est extrêmement intéressant.
Après, pardon, je voulais aussi préciser qu'il y a des petits éditeurs, pas éditeurs du coup, il y a des petites structures qui font aussi du print on demand et puis qui essayent de fournir aux auteurs un maximum d'outils sans chercher du tout à leur mentir sur ce qu'ils vont pouvoir en tirer. C'est-à-dire que ils vont pas dire vous allez avoir le même travail d'édition que chez un éditeur, un compte d'éditeur ou quoi, mais ils vont proposer des outils pour essayer de donner aux auteurs le meilleur moyen de s'en tirer. C'est le cas d'Atramanta, notamment, que moi j'utilise, et qui fait du print on demand aussi, et puis qui va essayer de donner comme ça ses outils au maximum. Il y a aussi effectivement des éditeurs, alors à compte d'éditeur, qui vont publier plus d'une centaine d'auteurs par an, et puis si les auteurs ils vendent 10 bouquins, ils vont quand même publier éventuellement la suite, mais en fait ils vont se reposer sur très peu de livres vendus par beaucoup d'auteurs. Je sais pas exactement comment est-ce qu'ils arrivent à tirer leur épingle du jeu, mais disons que c'est pas parce qu'on est édité que par un éditeur que il va se passer quoi que ce soit en fait.
En fait, si quelqu'un si j'ai une recommandation à faire pour un auteur qui a du mal à trouver un éditeur, c'est plutôt que de passer par du print on demand. En réalité, vous allez vers un imprimeur local ou même en ligne, il y en a. Il faut pas faire du print on demand parce que de toute façon, vous allez pouvoir en vendre quelques dizaines auprès de vos proches. Vous avez meilleur temps de passer comme ça. Et surtout, ne signez pas de contrat qui cède vos droits à n'importe qui, parce que en fait des auteurs qui viennent me voir et qui me disent oui mais je me suis fait éditer par et puis il veut pas faire la suite ou j'aime pas comment il travaille, etc. Je dis mais moi je peux rien faire, j'ai pas les droits sur le tome 1, c'est mort. Et le truc c'est qu'en fait ils auraient eu meilleur temps de venir vers moi puis dire bah j'ai été édité, parce que mes auteurs par exemple si ça fonctionne pas bien ou si je mets la clé sous la porte, eh ben ils ont tout est sous licence libre, donc ils peuvent parfaitement récupérer et éditer soit même soit auprès d'un autre éditeur.
Mais alors du coup, alors dans ton article on évoque quand même la question de la problématique du stock, parce que finalement le print on demand pourrait résoudre ça.
Oui, alors effectivement, en fait, souvent les gens ils disent mais j'ai pas de place chez moi. Alors la réalité c'est que si tu imprimes 100 bouquins, ben ça prend pas déjà tant de place que ça. Vous choisissez pas de faire un grand format A3, voilà. Ce que je veux dire, et rapidement vous allez en vendre. Après, en fait, il existe des prestataires, des libraires peut-être près de chez vous qui ont aussi une boutique en ligne où vous pouvez discuter, et puis lui dire mais en fait moi j'ai des bouquins, puis c'est vous qui le vendez en ligne. Je pense que c'est beaucoup plus constructif en fait pour vous, pour votre réseau, qu'un libraire vous soutienne. J'ai donné l'exemple d'un prestataire belge qui avant qu'on soit diffusé en Belgique nous le faisait, donc il prenait une partie du stock et puis il le vendait. Donc je pense qu'il y a vraiment, surtout si vous avez un seul bouquin, c'est pas moi, j'ai du stock, il déborde. On a près de 30 titres à notre catalogue, et puis voilà. Mais si vous avez qu'un seul bouquin, ça va. Voilà, c'est ça.
Ça va. Pour
ouais, ça devrait passer
pour le stockage.
C'est de 3 cartons.
D'accord. À coup déjà.
Oui, c'est juste aussi s'il y a des auteurs qui nous écoutent, qui ont envie de chercher un éditeur, il y a aussi une chose dont il faut, je pense, parler, c'est quelques maisons qui se présentent comme des maisons d'édition à qui on peut envoyer son manuscrit, qui vont répondre très rapidement. Ah oui, c'est super, vous avez été sélectionné, on est d'accord pour vous éditer, ça fera tant d'euros. Alors, une édition à compte d'éditeur, on ne débourse rien. Sinon, on est dans un format intermédiaire et puis c'est malhonnête d'essayer de faire croire l'inverse. Voilà. Mais il y en a quand même pas mal, hein, qui se font avoir régulièrement. Donc,
merci pour ces éclairages, je pense que c'est intéressant. Et on vous renvoie vers l'article, effectivement, qui est sur le site, parce que ça apporte pas mal d'éléments, justement, par rapport à la question du stockage, par rapport à la question des coûts. T'as fait des comparaisons de coûts, etc. Donc, je trouve ça extrêmement, extrêmement intéressant, extrêmement pertinent. Moi, je voulais en venir sur la question de la licence. Alors, j'imagine que vous avez plusieurs publics de personnes qui écrivent. Vous avez les gens qui ont déjà entendu parler des licences libres, qui veulent écrire en licence libre. Et puis, il y a ceux qu'il faut convaincre. Alors, vous avez une expérience par rapport à ça?
Alors, pour la collection Ludomir, convaincre pour
la collection Ludomir, c'est la collection qui justement
qui est libérée, et ouais. En fait, au moment où je l'ai libérée, une bonne partie des auteurs n'avaient pas signé pour être libérés, donc il a fallu leur en parler. C'était des discussions. Maintenant, en fait, c'est assez simple. C'est-à-dire qu'en fait, au moment où je dis oui à un manuscrit, je leur dis. Voilà, j'édite sous licence libre, vous acceptez ou vous acceptez pas. Voilà, donc après certains disent c'est quoi, alors je prends le temps de leur expliquer. Mais quelqu'un qui serait complètement allergique à ça, en fait, pourquoi veux-tu te faire éditer par nous? Voilà. Mais après il y a eu des discussions, il y a eu aussi beaucoup de discussions entre auteurs parce que
voilà, mais c'est ça, je vais écouter éventuellement.
Vas-y.
Oui, alors c'est vrai que j'ai pas mal d'expérience à ce niveau-là, parce que même déjà sur les forums de In Libro Veritas à l'époque, de Atramanta, les auteurs en parlent entre eux, et c'est vrai que ces licences, surtout les licences libres, font un peu peur. Et puis donc avec les auteurs PVH, on a eu exactement les mêmes discussions, et la première chose qui va revenir, c'est d'accord, mais alors ça veut dire que quelqu'un peut prendre mon travail, l'éditer, et que je ne touche pas un centime, il va le vendre et moi je toucherai rien. Et ça, les gens voient ça comme un manque à gagner direct, en fait. Et du coup, je leur explique ma démarche, qui est déjà de réfléchir que, déjà, si quelqu'un trouve mon travail et puis veut l'éditer, c'est qu'il en a entendu parler. Donc, ça veut dire que ça marche déjà pas mal. Si il fait ça, on va en parler encore plus. Moi, je pourrais dire aussi que je préfère que les gens achètent tel ou tel. De toute façon, il y aura toujours mon nom sur la couverture. La personne sera obligée d'utiliser la même licence. Ça veut dire qu'elle le fera en pensant bien que d'autres pourront exactement de la même manière éditer à leur compte. Et puis, en fait, tout ça, ça va surtout agir à faire connaître ce livre, et que moi, la version sur laquelle je vais éventuellement toucher de l'argent, eh bien, du coup, on va en parler aussi.
Merci. Alors du coup, oui, tu évoquais aussi ton expérience avec Atramenta, et justement ces licences et la clause NCND. Je ne sais pas si tu veux compléter ce que tu viens de dire, mais je trouve que c'est de toute façon des arguments qu'on entend avec le logiciel libre aussi, hein, et qu'il faut systématiquement contrer, prendre le temps d'expliquer, et ça prend du temps.
Oui, exactement. C'est les mêmes arguments, en fait. Moi, quand j'explique le principe d'un logiciel libre ou le principe de l'art libre, les gens me répondent les mêmes questions, en fait. Et sur Atramenta, c'est vrai que j'en discutais avec son fondateur, Thomas Boitel, il n'y a pas très longtemps. En fait, les gens vont avoir tendance à utiliser les licences les plus restrictives. Aussi, probablement, parce que la licence la plus libre, plus on ouvre les droits aux utilisateurs, aux lecteurs, eh bien en fait plus l'auteur va avoir peur, parce que c'est pas du tout dans l'air du temps de penser comme ça. Et en fait il y a une espèce de rouleau compresseur derrière qui nous formate à penser d'une certaine manière, et pour sortir de ça c'est toute une démarche en fait qui nécessite un effort, et pour laquelle il y a vraiment des explications à donner, de la pédagogie à faire, des sources à donner, des exemples aussi. Et puis seulement alors on peut sortir des schémas qui nous sont assez imposés par la vision sociétale actuelle, quoi.
Moi j'ajouterais, parce que avec le parallèle avec le logiciel libre, en fait en français on n'a pas ce problème, parce que logiciel libre et gratuit c'est pas la même chose, alors qu'en anglais le free software crée une confusion. Et dans l'art, en fait il y a une confusion en français, qui est celle de confondre droit d'auteur et royalties. C'est en fait, quand je leur dis, mais en fait, on va libérer votre œuvre, donc en fait, vous renoncez, enfin, d'une sorte, au copyright, qu'ils associent de manière abusive, mais on va pas entrer dans les détails, avec le droit d'auteur, puis ils disent, mais en fait, mon travail, il est pas gratuit. Puis je dis, mais en fait, il est pas gratuit, c'est pas freebie. C'est, en fait, en fait, les auteurs qui éditent chez moi, ben, ils gagnent autant que s'ils étaient édités ailleurs. Il y a des royalties qui sont toujours là. On signe un contrat qui définit qu'ils ont un tel pourcentage sur les ventes. Et ça n'empêche pas. En fait, ils ont peur, en fait, de ça. Et puis, quand tu parlais de leur expliquer, déjà, il n'y a aucun autre éditeur qui va reprendre mes bouquins, à part s'il y en a un qui est un Harry Potter bis, j'en sais rien. Et encore, après, l'auteur va pouvoir, comme elle l'a bien expliqué, si vous voulez soutenir mon travail, la vraie version, c'est celle-là. Puis après, ben, il y aura peut-être des contrefaçons, peut-être qu'en fait des gens qui n'ont pas l'argent pour ils se le partageront, puis c'est tant mieux, parce qu'en fait en réalité on sait très bien que des livres Harry Potter on peut le télécharger en ligne, même si c'est illégal. Mais en fait aussi dans la réflexion de quand j'ai libéré, c'est que je savais que en ayant comme auteur Plume Lionel Dricot, toute la collection elle était partagée, et moi j'ai toujours été ok avec ça. Je me suis dit quitte à être partagé, autant que tout le monde ait le droit de le faire.
Et une chose aussi que les auteurs craignent, c'est que leurs livres en PDF se retrouvent à être diffusés hors de contrôle, hors de leur contrôle, c'est-à-dire qu'ils se partagent des e-books sur lesquels ils ne vont rien toucher, alors qu'ils préféreraient vendre des e-books. Mais la réalité des choses, c'est que de toute façon, n'importe quel livre, on le trouve en e-book sur Internet. Si quelqu'un a envie de lire un livre gratuitement, il va le trouver. Donc moi, ma philosophie, c'est plutôt que de pleurer après ça, réjouissons-nous-en, parce que en fait mon livre, plus il est diffusé même gratuitement sur Internet, plus en fait les gens vont en parler, plus il va être connu, et plus ceux à qui ça va plaire vont pouvoir en prendre connaissance et acheter des versions papier ou des e-books pour soutenir, ou voilà. Mais en fait ce qui compte, c'est qu'il soit lu.
Et puis surtout, en fait, quand ils signent et cèdent leur droit d'auteur à un éditeur de manière normale, En fait, ils perdent déjà le contrôle. Sauf qu'ils perdent complètement le contrôle. Alors que en éditant sous licence libre, ben s'ils m'aiment plus ou ils aimeraient faire à leur manière, ben ils ont le droit.
C'est peut-être le moment d'expliquer peut-être la différence entre droits patrimoniaux et droits moraux, parce que finalement, je trouve que ça peut éclairer ça aussi.
Alors, en fait, dans le droit d'auteur européen, il existe en fait, il y a un droit qui est inaliénable, qui est le droit moral, qui peut pas être cédé, mais en réalité, quand on signe un contrat classiquement avec un éditeur, en fait, on cède tout le reste. Et donc, c'est le droit de faire des suites, c'est le droit d'adapter, de l'éditer, de le vendre, etc.
Oui, je pense que c'est important de
préciser. Après, en fait, quand on n'a plus que le droit moral, on n'a plus que les yeux pour pleurer, quoi. Non,
on renvoie vers l'émission avec David Revoix où justement il aurait envie d'invoquer le droit moral par rapport à des problématiques liées à des NFT. Bon, ça, on vous renvoie à ce sujet-là, mais du coup, ça met bien en relief ces deux dimensions-là où effectivement, les droits patrimoniaux, une fois qu'ils sont cédés, on peut plus rien faire. Alors que finalement, quand on est en licence libre, c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure, l'éditeur va pouvoir envisager des suites, bon alors des films dans l'idéal quand ça devient vraiment très 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 connu, mais voilà, il y a toute cette logique là finalement qui peut découler naturellement. Il nous reste à peu près 5 minutes, donc ça va être l'occasion de nous dire ce que vous avez oublié de nous dire, et puis peut-être nous recommander. Alors c'est peut-être difficile pour l'éditeur de choisir particulièrement aucun de sa collection,
parce qu'il va
privilégier un de ses auteurs ou une de ses autrices.
Les œuvres d'Aquilegia, mais voilà. Mais je pense que si vous êtes amateur de science-fiction, il y a dans toute la collection vraiment, alors c'est 4 livres, c'est One Minute de Thierry Crouzet, qui est vraiment quelque chose qui sort de l'ordinaire. C'est un roman en 4 parties qui est sous forme de saison, et chaque chapitre, c'est une minute. Mais c'est tout le temps la même minute, vue chaque fois par une personne autour du globe différent. Et on découvre petit à petit, un peu comme un tableau impressionniste, chaque minute est un point, et la fresque globale apparaît au fur et à mesure. Et vraiment, c'est quelque chose, c'est vraiment dans toute la collection celui qui sort le plus des standards.
Ce sera mon cadeau de Noël, donc.
En termes de recommandations de lecture, alors, je ne lis plus beaucoup depuis la maternité, hein, c'est quelque chose de terrible, ça. Mais oui, j'ai lu effectivement les One Minute et puis plusieurs livres de la collection. Et franchement, moi, ce que j'aime, c'est que c'est une collection qui est très diverse. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont se passer vraiment dans de la fantasy médiévale, la plus pas classique, parce que rien n'est classique en fait dans cette collection, mais une fantaisie médiévale avec ses codes, et puis va y avoir de la SF, va y avoir de la fantaisie contemporaine, va y avoir en fait, quand on aime la science-fiction, la fantaisie, le fantastique, il y a forcément des livres qui vont nous plaire dans cette collection, tellement chaque livre est spécial en fait.
D'accord, donc pas un titre en particulier, là tu fais la promotion de la collection.
Alors moi, j'ai beaucoup aimé le projet Idaho par exemple de Pascal Levy, qui commence vraiment, donc c'est quelqu'un qui attend des copains à la plage, et puis qui attend, finit par ronchonner que ses copains ont dû oublier, retourne à l'hôtel pour aller les chercher, et puis surprise, personne ne le connaît, personne ne le reconnaît, les copains sont pas là, sa chambre est en travaux depuis des semaines, voilà. Donc que s'est-il passé?
Donc, projet Idaho, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Et puis, quand même, recommander l'œuvre d'Aquilegia, donc Ceux qui changent et ceux qui viennent, qui est dans la série Agile aux 1000 visages. C'est de la fantasy. C'est de la fantasy aussi inclusive, donc avec un personnage qui est métamorphe, donc qui change de sexe, qui est gender fluide. Et c'est extrêmement... une histoire très prenante, mais qui aborde aussi des thématiques de genre, d'identité de genre, de maternité, de paternité.
D'actualité aussi, d'accord. Très bien, est-ce que vous avez un dernier mot à dire?
Ben, moi, j'aimerais dire En fait, merci de nous avoir donné le micro, mais aussi pour bien... Il y a quelque chose aussi qui est important, c'est que on est une entreprise commerciale, on a des salaires et tout ça, et qu'en réalité, l'achat d'un livre, c'est le modèle économique principal qu'on a. On est déjà vendu dans les librairies et tout ça, et puis que en fait, notre démarche, on va essayer d'aller au bout en fait de l'idée de collection sous licence libre, mais que vraiment le succès aussi de cette expérience va dépendre aussi de la survie ou du développement en fait des possibilités de pouvoir aussi pouvoir servir de modèle. Tout comme quand j'avais commencé à être éditeur, j'avais repris des modèles de contrats qui étaient sous licence privative, classique. Et en fait, il manquait de modèles. Alors il y a des maisons d'édition. Je pense notamment à Copyleft qui vient de terminer son crowdfunding qui est en fait une maison d'édition, je crois, basée en Normandie, qui édite aussi sous licence libre. Ils font des recueils de nouvelles de science-fiction, solarpunk. Donc voilà. Et je pense que en réalité, la plupart de nos lecteurs, ils s'en fichent de la licence. Mmh. Mais le fait que on puisse aussi intéresser les personnes des logiciels libres, qui soutiennent l'art libre, ça va nous aider à développer en fait l'expérience, et puis surtout allez-y, partagez, surtout appropriez-vous les bouquins, faites-en ce que vous voulez, la licence elle est là pour ça.
À qui les gars pour conclure?
Et si j'ai un conseil à donner à toutes les personnes qui écrivent, qui ont franchi le pas de l'écriture, c'est surtout mais faites-vous lire. Mettez vos textes en ligne, proposez-les, allez lire les autres, échangez. Voilà, c'est ce qui se passe sur Atramanta et ça fait vraiment des communautés très chouettes et ça, on apprend beaucoup. Et avant de passer justement dans toute la démarche de la recherche de maison d'édition, etc., c'est vraiment quelque chose d'extrêmement enrichissant pour soi et pour ses textes.
Merci beaucoup pour cette conclusion. Merci beaucoup à tous les deux. Je vais passer la parole à Étienne qui va faire avancer l'émission.
Merci Laurent et merci donc à nos deux invités, Akilega Nox et Lionel Genra, donc une autrice et de la maison d'édition PVH. Merci. Donc vraiment un échange passionnant. Et tu parlais des cadeaux de Noël. Lionel a amené les bouquins. C'est vraiment de beaux objets aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à les découvrir, ces livres, les commander chez vos libraires.
Libraire indépendant.
Chez libraire indépendant, bien sûr. Et Bookie hoche de la tête, je pense, en régie. Et nous allons à présent faire une pause musicale. Après la pause musicale, nous entendrons la chronique de Vincent Cam sur ses lectures buissonnières, la deuxième partie de Semences, une histoire politique. Avant cela, nous allons écouter La Marguerite par Aux Abris. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Faut réfléchir avant tout. Mais s'il n'y avait pas de suite, ça fait beaucoup d'un seul coup. Tout ça pour une marguerite, tu regrettes après coup. La solution, c'est pas la fuite, on s'apprivoise. C'est tout afin d'éviter les pires dans le vin de l'eau. Un coin, c'est tout. On va la brûler, on négocie pour ne pas devenir fou. Pour cette fleur, une si jolie marguerite, par qui tu arraches le cœur, pour partir, pour prendre la fuite. C'est pas sympa pour cette fleur, c'est même pas une tulipe. Pour les sortir, c'est le bonheur, une fleur pour prendre la fuite. Je suis tombé sur à la folie, mais comme il n'y avait personne autour, je me suis dit c'est des conneries. Et puis mon chien aboyait, lui et moi c'est pour la vie. Si jamais on fait
suis en garde, c'est promis. C'est par sympa pour cette fleur, une si jolie marguerite, à qui tu as arraché le cœur pour partir, pour prendre la fuite. C'est par sympa pour cette fleur, c'est même pas une étude. Pour les orchidées, c'est le bonheur, une fleur pour prendre la fuite. La effrayer la marguerite pour tomber sur ta beauté, c'est ainsi que tu le quittais, du coup il vaut plus un grand. Et c'est chez lui que tu habites, faut réfléchir avant tout, même s'il n'y avait pas de suite, ça fait beaucoup d'un seul coup. La la la, la la la.
Nous venons d'écouter La Marguerite par Aux Abris, disponible sous licence Art Libre. Voilà, je remercie mon collègue Frédéric Couchet qui m'a proposé cette pépite libre.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavoue.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
Je suis Étienne Gonu pour l'April et nous allons passer à notre dernier sujet. Nous allons poursuivre avec les lectures buissonnières de Vincent Calame, sa nouvelle chronique pour la saison 7 de Libre à vous. Le mois dernier, Vincent nous avait proposé la première partie de sa lecture buissonnière de l'ouvrage « Semences, une histoire politique » et il revient aujourd'hui pour une deuxième partie.
Oui, bonjour Étienne. Donc effectivement, l'ouvrage « Semences, une histoire politique » est évidemment très riche et doit me limiter à certains aspects plus susceptibles d'être mis en parallèle avec le thème de notre émission. C'est pourquoi je vais aujourd'hui, dans la partie 2, vous parler du catalogue des semences en faisant un peu d'histoire et de biologie. Hein. Prenez des notes, il y a une interro à la fin. Alors, pendant des millénaires, la sélection des plantes a été faite par les paysans eux-mêmes, conservant d'une année sur l'autre les graines de leurs meilleurs plants et s'échangeant leurs semences de manière informelle. C'est ce qu'on appelle, donc retenez le terme, la sélection massale. Alors celle-ci est la forme de sélection dominante jusqu'au milieu du XXe siècle. Les premiers sélectionneurs privés apparaissent en France au XVIIIe siècle, mais leur activité reste limitée aux plantes potagères et aux grandes cultures, le blé notamment, des plaines du nord de la France. Alors, ces sélectionneurs, eux, promeuvent la sélection généalogique, retenez aussi ce terme, où les grains de chaque plant ou semis sont semés séparément, contrairement au mélange de graines de la sélection massale. Alors, c'est au tournant du XXe siècle que s'établissent les bases de la génétique. Le terme lui-même date de 1905. Et elles sont progressivement intégrées par ces sélectionneurs privés dans leur pratique de sélection généalogique. L'État, quant à lui, se contente d'un rôle de contrôle de la qualité des semences. La recherche publique est encore limitée. Et on commence par établir un inventaire des variétés existantes, premier pas du futur catalogue. Et c'est avec le gouvernement de Vichy que se met en place un véritable dirigisme semencier, selon l'expression des auteurs de l'ouvrage, et que sont créées les deux institutions qui régentent encore aujourd'hui le monde des semences, le Groupement National Interprofessionnel des Semences, le GNIS, et le Comité Technique Paritaire des Semences, CTPS.
Attends, je t'ai bien entendu, c'est-à-dire que notre système actuel est un héritage de Vichy ?
Oui, alors ça fait bizarre de dire ça aujourd'hui, hein, quand on connaît la véritable nature du régime de Vichy, et particulièrement sa participation active et volontaire à l'extermination des Juifs. Mais il faut aussi se pencher sur le contexte pour comprendre pourquoi ces institutions ont été non seulement maintenues, mais renforcées à la libération. Bon, la majorité de la population, hein, ni résistante, ni collaborationniste, la guerre, c'est d'abord les privations, le rationnement et la faim. Or, ces privations n'ont pas cessé du jour au lendemain à la libération. La carte de rationnement a été maintenue sans 49. Pour l'état de l'après-guerre, la modernisation des campagnes devait être conduite à marche forcée. ce qui, au passage, libérerait des bras pour l'industrie. Dans cette période qui court de la fin de la guerre à la fin des années 60, nombreux sont les pans de l'économie pilotés par l'État, qui créent de grands instituts de recherche, donc comme l'Institut National de Recherche Agronomique, INRA, pour ce qui nous concerne, mais aussi structurent les filières et favorisent l'émergence de champions nationaux. Alors, dans le cas des semences, l'outil principal mis en place est le catalogue des variétés cultivées. Toute variété devrait être inscrite au catalogue, et seules les variétés inscrites pouvaient être commercialisées en tant que semences. Bon, jusqu'ici, on pourrait dire pourquoi pas. Hein. On peut y voir aussi une protection des consommateurs et une lutte contre la contrefaçon. Le problème, c'est que l'inscription au catalogue est conditionnée de critères très stricts. Le premier critère est celui, je cite, « distinction, homogénéité et stabilité ». Son objectif est clairement de favoriser les variétés dites « variétés ligne pure » issues de la sélection généalogique réalisée par les acteurs privés ou étatiques, au détriment des variétés dites « variétés population » issues de la sélection massale des paysans. Le second critère est celui de valeur agronomique et technologique, qui lui va servir à orienter les pratiques agricoles, car la valeur agronomique et technologique de la variété va être évaluée suivant les principes de l'agriculture industrielle, engrais, pesticides, mécanisation. Les auteurs donnent un exemple éclairant pour le blé. Dans un premier temps, la résistance aux maladies fait partie des critères d'évaluation. Mais à l'apparition des fongicides, il est décidé que ce n'est plus un critère pour faire partie du catalogue. Autrement dit, l'obligation d'acheter des semences du catalogue se transforme en obligation d'acheter des fongicides. On voit que ce n'est pas l'existence du catalogue qui pose problème, mais sa gouvernance. Et celle-ci a été largement dominée par l'État dans les premières décennies d'après-guerre. En appliquant le modèle fordiste de l'industrie à l'agriculture, ce dernier a transformé les paysans en maillons d'une chaîne qu'ils ne maîtrisent plus.
À ce stade, est-ce qu'on peut commencer à établir justement quelques parallèles avec le monde du libre ?
Oui, j'aimerais évoquer avec l'exemple du catalogue la question des normes et des standards, dont l'importance en informatique est évidente. Le combat d'ailleurs pour les standards ouverts est un des volets importants du combat pour le libre. L'exemple du catalogue montre qu'une norme n'est pas neutre. Elle peut être au service d'un objectif politique, et surtout son évolution au cours du temps doit être surveillée de près. Une norme initialement ouverte peut se fermer de version en version, en rendant notamment la barrière à l'entrée particulièrement élevée pour de nouveaux arrivants. Dans les premières années, par exemple, le catalogue des semences contenait des variétés population, celles issues de la sélection par les paysans, mais elles ont progressivement disparu, au gré de la modification des critères. Un exemple rapide me vient à l'esprit en informatique, un peu équivalent, c'est celui des normes de lutte contre les courriels indésirables. C'est un prétexte louable, la norme devient de plus en plus complexe, il devient de plus en plus difficile de s'auto-héberger son courriel. Voilà, alors pour conclure cette chronique et pour introduire la prochaine partie, parce que oui, nous n'avons pas fait encore le tour de la question, l'intervention de l'État jusqu'à la fin des années 60 avait un objectif clairement politique, la modernisation de l'agriculture. Son action n'était pas inféodée à des intérêts privés. Pour preuve, le dépôt de brevets n'était pas envisagé et la réutilisation par l'agriculteur des semences issues de ses propres cultures était autorisée. Les choses vont changer à partir des années 70 et nous aborderons ça dans la prochaine chronique.
Merci Vincent, mais quel sens aussi de la transition et du suspense. Bah, donc je te dis au mois prochain pour une partie 3 de Semences, une histoire politique.
Tout à fait.
Super, merci beaucoup Vincent. Et nous allons passer aux annonces de fin. Alors dans les annonces, bien là, je vous rappelle que Cause Commune nous propose un rendez-vous convivial chaque premier vendredi du mois à partir de 19h dans ses locaux à Paris, au 22 rue Bernard Dimet, dans le 18e arrondissement. Une réunion d'équipe ouverte au public avec apéro participatif à la clé. Occasion de découvrir le studio et de rencontrer les personnes qui animent les émissions. La prochaine soirée de rencontre aura lieu le vendredi 3 novembre. Et que faites-vous la semaine prochaine à 15h30 ? Nous vous donnons rendez-vous sur les ondes de la radio Cause Commune pour une première mondiale historique, le lancement d'un nouveau rendez-vous dans Libre à vous, le Café Libre. Une fois par mois, nous vous proposerons un temps de débat avec notre équipe de libristes de choc issus d'une rigoureuse sélection pour discuter avec elles et eux et débattre des sujets d'actualité autour du libre et des libertés informatiques. On vous donne donc rendez-vous mardi 31 octobre à 15h30, toujours en direct, pour ce premier Café Libre. Et si vous n'êtes pas disponible, rassurez-vous, vous n'aurez peut-être pas l'intensité et le suspense du direct, mais vous pourrez bien sûr vous rattraper avec le podcast qui sera disponible quelques jours plus tard, ou bien sûr la transcription réalisée par le groupe Transcription de l'April. Je profite pour remercier, comme souvent, Marie-Odile et les autres personnes de ce groupe Transcription pour leur fantastique travail. Et comme d'habitude, vous pouvez trouver les événements libristes ainsi que les associations libristes locales sur l'agenda du libre.org. Notre émission se termine et je vais donc remercier les personnes qui ont participé à l'émission. J, Laurent Costi, Lionel Genra, Akigela Nox et Vincent Calam. Aujourd'hui à la régie, Bookinet pour sa première régie en solo et ça a été une très belle régie. C'est pas grave pour les petits débuts, ça fait partie de l'apprentissage, donc il n'y a vraiment aucun souci. Merci également aux personnes qui s'occupent de la post-production des podcasts. Samuel Aubert, Elodie, Daniel Giraudin, Languin, Julien Haussmann. Tous et toutes bénévoles à l'April, ainsi que Olivier Gréco, le directeur d'antenne de la radio. Merci aussi aux personnes qui découpent les podcasts complets des émissions en podcasts individuels par sujet, Quentin Gibault, bénévole à l'April, et mon collègue Frédéric Couchet. Vous retrouverez sur notre site libreavoue.org toutes les références utiles ainsi que sur le site de la radio Cause Commune, cause-commune.fm. N'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu, mais aussi des points d'amélioration. Vous pouvez également nous poser toutes questions et nous y répondrons en direct ou lors d'une prochaine émission. Toutes vos remarques et questions sont les bienvenues à l'adresse contact@libreavoue.org. Si vous préférez nous parler, vous pouvez nous laisser un message sur le répondeur de la radio. Pour réagir à l'un des sujets de l'émission, pour partager un témoignage, vos idées, vos suggestions, vos encouragements ou pour nous poser une question. Le numéro du répondeur est le 09 72 51 55 46. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous et à faire connaître également la radio Cause Commune, La Voix des Possibles. La prochaine émission aura donc lieu en direct mardi 31 octobre à 15h30 et comme je vous le disais, notre sujet principal portera sur l'actualité du libre dans un nouveau format d'émission, un café libre. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve donc mardi 31 et d'ici là, portez-vous bien.